Plus de la moitié des petites entreprises au Canada, ben, elles comptent moins de 4 employés.
Ouais, c'est quand même fou quand on y pense.
Vraiment. C'est une statistique qui frappe, surtout quand on réalise que certaines de ces micro-équipes arrivent à gérer une logistique d'expédition à l'échelle nationale.
Voire mondiale dans certains cas.
Exactement. Et avec une efficacité qui rivalise littéralement avec celle des géants corporatifs, tu sais. Fait que la question, c'est comment 3 ou 4 personnes dans un bureau arrivent à expédier des milliers de colis par jour.
Et ça, depuis de multiples entrepôts.
Eh oui, sans faire faillite. C'est vraiment le cœur de notre analyse en profondeur aujourd'hui. On a ce document source, ça s'appelle « Multilocation Shipping 1.0.docs ».
Un très bon rapport interne, d'ailleurs.
Oui, très détaillé. Et l'objectif de notre discussion, notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre l'anatomie de cette transition critique-là.
Le moment où ça casse, genre.
C'est ça. Le moment où une entreprise grandit puis que l'inventaire qui était autrefois super bien rangé dans une petite arrière-boutique
se retrouve soudainement éparpillé à travers le pays.
Voilà. Parce que selon notre document, c'est à ce moment précis que le rêve de l'expansion peut vraiment se transformer en un véritable effondrement opérationnel.
Absolument.
On parle d'expéditions réservées en double, des camions qui tournent à vide.
Des erreurs de facturation qui passent inaperçues aussi.
Ouais. Des erreurs super coûteuses. Fait que pour qu'une logistique décentralisée fonctionne, qu'est-ce qu'on doit regarder en premier?
Bien, ce point de rupture, il survient toujours quand l'infrastructure technologique ne suit pas l'ambition de l'entreprise, tu sais.
Ouais.
Ce qui était géré d'un simple coup d'œil ou avec une petite feuille de calcul Excel de base, bien, ça devient soudainement complètement invisible.
C'est clair.
Fait que les documents qu'on analyse pointent vers une règle fondamentale. La croissance des opérations physiques ne devrait pas forcer une entreprise à juste empiler des nouveaux logiciels.
Ah, le fameux syndrome du « on ajoute une application pour chaque nouveau problème ».
Exactement ça. La solution repose plutôt sur une plateforme centralisée de gestion des expéditions, comme Freightcom, par exemple, qui maintient une visibilité absolue sur chaque action.
Peu importe la distance entre les entrepôts, genre.
Exact, c'est la clé.
OK. Ben décortiquons tout ça. Parce que l'idée d'une plateforme unique qui fait absolument tout, c'est super attrayant sur papier.
Oui, en théorie, c'est magique.
C'est ça. Mais le premier mur qu'une entreprise frappe quand elle décentralise, ben, c'est le facteur humain, tu sais.
Le chaos de la gestion multi-utilisateur.
Ah ouais. Notre source est très claire là-dessus. Si on a 3 entrepôts, on a 3 équipes différentes, puis donner à tous les employés le mot de passe d'un seul compte d'expédition maître...
C'est un désastre annoncé.
C'est littéralement comme partager le mot de passe du compte bancaire de l'entreprise avec 50 employés. N'importe qui peut engager des frais astronomiques par erreur.
Et à l'inverse, si on isole chaque gestionnaire d'entrepôt avec ses propres petits outils dans son coin...
Ça?
Le siège social n'a plus aucune idée de ce qui se dépense globalement. Exact, c'est le paradoxe classique de l'expansion. Le siège social veut le contrôle, mais les équipes locales ont besoin d'autonomie pour aller vite, tu sais.
Ben, ils peuvent pas attendre une approbation pour chaque boîte.
Ben non. Fait que la mécanique pour résoudre ça, c'est le contrôle d'accès basé sur les rôles.
OK.
Plutôt que de voir le système comme une porte qu'on ouvre ou qu'on ferme pour tout le monde, faut l'imaginer comme un édifice.
Un édifice avec des passes magnétiques, genre.
C'est ça. Des cartes d'accès programmées pour des étages très spécifiques pour chaque employé.
Je comprends le principe, mais je dois jouer l'avocat du diable 2 secondes ici.
Vas-y, je suis prête.
Si on commence à micro-gérer les accès de chaque personne sur une plateforme, est-ce qu'on risque pas de créer un immense goulot d'étranglement?
C'est la peur de tout le monde, ouais.
Tu sais, si un gars sur le plancher doit demander de la permission au siège social à chaque fois qu'il y a un cas un peu inhabituel, la productivité va juste chuter, non?
Bien, l'intuition nous pousse à croire que les restrictions ralentissent les opérations, mais l'analyse démontre exactement l'inverse, en fait.
Ah ouais? Comment ça?
Le vrai ralentissement se produit quand les employés hésitent parce qu'ils ont peur de faire une gaffe qui va coûter cher.
Ah! C'est pas bête, ça.
Dans un système bien configuré, mettons, un membre de l'équipe dans un entrepôt spécifique reçoit des paramètres pré-approuvés.
En fait, il voit juste ce qu'il a besoin de voir.
Exactement. Son interface lui permet juste d'imprimer des étiquettes puis de réserver des envois standards pour son emplacement.
Ben, il vaut pas les options de fret international à 5 000
Ben non. Puis, il voit pas les données financières non plus. En retirant le risque d'erreur, on retire l'hésitation.
Wow!
Les équipes décentralisées exécutent leurs tâches beaucoup plus rapidement parce que la sécurité est déjà codée dans l'outil, tu sais.
C'est fascinant de voir ça sous l'angle de la psychologie. On enlève le bruit de fond, fait que la concentration augmente.
C'est exactement ça.
Puis j'imagine que le directeur financier, de son côté, il navigue dans un environnement complètement différent sur la même plateforme.
Oui, avec un accès exclusif aux factures, sans avoir à savoir comment fonctionne l'imprimante thermique sur le plancher, tu sais.
Logique. Mais là, si on met ce système-là en place... puis que chaque équipe commence à travailler super vite dans son propre couloir.
Le volume augmente.
Le volume explose.
Ce qui crée un nouveau problème massif, la paperasse.
Ah, le fameux fardeau administratif. Comment une équipe comptable gère l'avalanche de factures générées par de multiples entrepôts très productifs?
C'est souvent ce mur-là qui détruit la rentabilité d'une jeune entreprise, honnêtement.
T'sais, on revient à notre statistique des PME de moins de 4 employés. Là.
Ouais.
Ces équipes-là n'ont pas le budget pour embaucher 10 commis à la saisie de données.
Prenons un scénario standard. 3 centres régionaux qui opèrent. À la fin du mois, la comptabilité reçoit des factures de, mettons, 6 transporteurs différents.
Avec des formats différents, j'imagine?
Toujours. Rattachés à des comptes de services individuels. Tenter de réconcilier ça manuellement pour calculer la vraie marge de profit.
C'est un travail de moine.
C'est l'enfer.
C'est ça. Les coûts administratifs explosent, puis les erreurs de saisie mangent les profits en cachet. Fait que, comment le modèle Freightcom Enterprise, tel que décrit dans le rapport, réussit à éliminer cette friction sans ajouter de personnel?
Si on relie ça à la situation dans son ensemble, le mécanisme clé, c'est la consolidation algorithmique à la source.
OK. Donc, dès la création de l'envoi.
Voilà. Au lieu de laisser la donnée se fragmenter, le système capture l'information à la seconde même où l'étiquette est imprimée.
Dans n'importe quel entrepôt.
Exact. La petite équipe comptable n'a plus besoin de courir après des traces papier sur 10 sites web différents.
Ils se connectent à une seule place?
Un seul tableau de bord où chaque transaction est déjà catégorisée par emplacement, par transporteur puis par centre de coût.
La réconciliation se fait en temps réel en arrière-plan.
Ouais, ça élimine les erreurs puis ça garde tout le monde axé sur le profit.
Ça explique vraiment comment de si petites équipes arrivent à soutenir la cadence. Mais OK, poussons la machine un peu plus loin.
Vas-y.
La comptabilité s'est réglée. Les humains travaillent bien. Qu'est-ce qui se passe quand le défi devient purement physique?
Tu veux dire au niveau du volume de boîtes?
Ouais, un volume absurde de produits identiques. Le document cite le cas d'une marque de vêtements qui lance une nouvelle saison.
Ah oui, l'envoi d'échantillons.
Ils doivent envoyer des centaines d'échantillons à des influenceurs puis des détaillants. Ou une franchise qui doit distribuer 5000 trousses identiques le même jour.
C'est le test ultime pour la logistique, ça.
Si tu traites ça un par un, c'est comme écrire à la main 500 invitations de mariage identiques, tu sais.
Ah, mon Dieu! Quel cauchemar!
C'est une immense perte de temps puis un risque d'erreur massif. Une faute de frappe sur un code postal et c'est fini.
La méthode traditionnelle exigerait qu'un employé saisisse chaque adresse manuellement. Évalue le poids, sélectionne le transporteur.
5000 fois de suite, c'est inhumain!
Le risque d'erreur frôle les 100%. Fait que la source met en lumière un outil qui s'appelle distribution améliorée.
OK, et ça marche comment? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Est-ce que c'est juste un genre de bouton magique sur lequel on clique?
Bien, pas tout à fait magique par défaut. Le rapport précise qu'il faut d'abord contacter le gestionnaire de compte pour l'activer.
OK. Une petite étape de configuration.
Oui, mais une fois que c'est fait, le processus est super simple. Tu télécharges un modèle Excel, un template.
Tu le remplis avec les adresses des destinataires.
C'est ça. Tu le téléverses sur l'onglet d'expédition, puis le système aborde l'envoi massif comme une seule équation.
Fait que l'algorithme ingère le fichier et applique le même poids et les mêmes dimensions à tout le monde simultanément.
Exactement. Il calcule instantanément les routes pour des milliers d'adresses.
Il prend la boîte A pour Vancouver, puis en même temps la boîte B pour un petit village en Gaspésie.
En une fraction de seconde. Et le détail crucial ici, c'est qu'il n'y a aucune limite supérieure au nombre d'expéditions par distribution.
Attends vraiment là. Aucune limite.
Aucune. Que tu envoies 50 boîtes ou 50 000, le temps de traitement pour l'entreprise reste le même.
C'est brutal comme gain d'efficacité. Ça libère des semaines de travail. Là.
Totalement.
Mais là, ça nous amène directement à la prochaine faille, tu sais. La machine a fait sa gobe. Les milliers de boîtes sont dans les camions.
Le contrôle physique.
Voilà. Les colis sont expédiés en masse depuis différents entrepôts. Et là, le téléphone sonne.
Le fameux appel du client inquiet.
Un client qui demande où est sa commande parce qu'il y a un retard. Historiquement, le service à la clientèle, là-dedans, c'est un trou noir.
Ah, c'est la panique. L'employé doit chercher quel entrepôt a traité la commande.
Trouver quel transporteur s'en occupe.
Appeler 3 installations différentes.
Espérer que le numéro de suivi fonctionne. C'est une agonie qui détruit la réputation d'une marque, t'sais.
L'incertitude, c'est le pire ennemi de la fidélisation.
Comment une entreprise peut protéger sa fiabilité quand elle contrôle plus physiquement les camions?
Le rapport aborde ça avec le tableau de bord de suivi intuitif de Freightcom. On parle de l'intégration des API.
Donc, les systèmes des transporteurs parlent directement au système central en temps réel.
Exactement. Ça permet d'avoir toutes les infos centralisées.
C'est plus l'employé qui court après l'info.
Non, c'est l'info qui remonte vers lui. Mais le vrai changement, c'est que ça transforme une posture réactive en stratégie proactive.
Qu'est-ce que tu veux dire par proactif?
Bien, au lieu d'attendre que le client se plaigne, les équipes peuvent gérer les retards potentiels avant même que le client s'en rende compte.
Genre, il voit qu'un camion est bloqué par une tempête de neige.
Voilà. Le service client voit l'alerte et peut envoyer un courriel au client pour l'avertir du délai.
On contrôle la narration de l'erreur.
Exactement.
Dire « on a remarqué un délai, ça arrive demain », ça projette l'image d'une entreprise hyper compétente.
Ça résout les requêtes instantanément et ça sauve la relation client.
C'est brillant. Mais là, faut qu'on parle du nerf de la guerre.
Les coûts?
Ben oui. Offrir un suivi parfait puis des expéditions fluides, là, c'est fantastique. Mais si ça coûte une fortune...
L'entreprise ferme ses portes.
Exact. Le document mentionne qu'expédier depuis de multiples emplacements implique différentes voies et modes de transport.
Oui. Par exemple, un centre qui fait juste des petits colis pour les consommateurs, le B2C.
Et de l'autre côté, l'usine principale qui doit envoyer des palettes lourdes.
C'est là qu'on entre dans le monde du LTL, le chargement partiel.
C'est quoi la mécanique financière derrière ça?
Le LTL, c'est fascinant. Si t'as juste 3 palettes, tu veux pas payer pour un gros camion à moitié vide, tu sais?
Non, c'est du gaspillage d'argent.
Fait que les réseaux LTL consolident les palettes de plusieurs entreprises qui vont dans la même direction.
Ça divise la facture. Mais là, j'ai une objection super stratégique.
Vas-y.
N'est-ce pas plus logique pour une PME de signer un contrat exclusif béton avec un seul gros transporteur national?
Pour avoir le gros rabais de volume.
Ben oui, plutôt que de s'éparpiller avec plein de compagnies différentes. En mettant tous ses œufs dans le même panier, on a plus de pouvoir, non?
Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est exactement le piège à éviter.
Ah ouais, hein? Pourquoi?
Négocier séparément ou s'enfermer avec un seul transporteur, ça dilue ton pouvoir d'achat réel.
Comment ça?
Parce qu'aucun transporteur est le meilleur ou le moins cher sur toutes les routes. T'sais, un gars peut être super bon pour Toronto-Vancouver en petit colis.
Mais super cher pour une palette entre deux villages au Québec.
Exact. Fait que le rabais de volume sert à rien si le prix de base est gonflé à cause de leur inefficacité sur cette route-là.
C'est logique. Fait que Freightcom résout ça comment?
En s'associant aux transporteurs LTL et de colis les plus fiables. Les tarifs réduits sont déjà prénégociés par l'agrégateur.
Ah, fait qu'on profite du volume global de la plateforme, pas juste de notre petit volume à nous.
C'est ça. Sans aucun frais mensuel en plus. C'est le concept du Ship Smart.
Diversifier son réseau pour exploiter les forces de chaque transporteur.
L'algorithme choisit le spécialiste régional le plus performant pour chaque colis.
C'est garanti le meilleur prix puis le service le plus fiable à chaque fois.
C'est fou.
C'est vraiment un changement de paradigme.
Fait que si on résume, gérer de multiples entrepôts, ça doit pas mener au chaos. Avec les permissions...
On simplifie la comptabilité.
On automatise les envois massifs.
Puis on accède à des tarifs préférentiels en diversifiant. La structure est implacable.
Et la source rappelle qu'il est toujours possible de parler à un expert pour optimiser sa configuration dès le départ.
Ouais, parce que peu importe la taille de l'entreprise gérée par les gens qui nous écoutent, l'efficacité logistique, ben, c'est la colonne vertébrale de la croissance.
Sans friction, ouais.
Mais tu sais, cette architecture-là m'amène à une réflexion finale, une pensée un peu provocatrice pour clore notre analyse.
Je t'écoute.
On vient de voir comment la technologie permet à une toute petite équipe canadienne de gérer une logistique nationale.
Avec la force d'une multinationale géante.
Voilà. Ça signifie que la logistique, physiquement parlant, c'est plus vraiment une barrière à l'entrée.
L'algorithme a complètement nivelé le terrain de jeu.
C'est ça. Fait que la question se pose, dans un futur très proche, si n'importe qui peut distribuer ses produits parfaitement et à bas coût.
Ouais.
Est-ce que la véritable valeur d'une entreprise résidera plus du tout dans sa capacité à déplacer des boîtes, mais uniquement dans l'originalité absolue de ce qu'elle crée?
Wow! C'est profond!
Puisque la distribution est devenue une simple commodité automatisée.
C'est une excellente idée à méditer, ça.
Je trouvais aussi. Fait que c'est là-dessus qu'on va se laisser. Merci d'avoir plongé là-dedans avec moi.
Ça m'a fait plaisir. C'était super intéressant.